Le chemin des mots. Arrête-toi. Attends. Écoute. Souviens-toi. Le mot chiffonné sur du papier glacé. Le verbe poétique caché dans la phrase. Donne vie aux images. Grave son nom sur un tronc d'arbre. Écris le tumulte des eaux. Imagine les elfes s'abritant sur un rayon de lune. Embrasse le texte dans son renouveau. Relis-le, chante-le, offre-le, une nouvelle en voyage sur le chemin des mots.
Chers amis du chemin des mots, bonjour. Nous vous proposons, pour cette 7e émission, un détour vers le cinéma. Les films reflètent chacun à leur façon le climat d'une époque avec ses joies, ses liesses, ses passions. Le coup de foudre entre deux êtres, la naissance du grand amour, ne peuvent se soustraire du climat social et politique dans lequel ils s'insèrent. La grande histoire ne reste pas en coulisses. Ainsi, la chute du mur de Berlin survenue le 9 novembre 1989 a marqué la fin de deux Allemagnes. Cet événement sera au cœur de trois textes que nous allons vous proposer dans cette émission. Toute vie se conclut plus ou moins dramatiquement. La mort sera rendez-vous du dernier texte. Nous faisons appel à Nina Hagens, chanteuse de l'Est passée à l'Ouest dans les années 70, pour nourrir les nouvelles proposées.
Zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang.
Allein, die Welt hat mich vergessen.
Ben a laissé son vélo Savignyplatz, devant le Paris Bar, où il s'installe face à son MacBook. Il ouvre le fichier intitulé Drüben. Drüben. 1. Intérieur, chez Jans et Anke, dans le salon. Jour. Anke, assise sur le canapé en sky moutarde, tient une tasse fumante et boit à petites gorgées. Un paquet de carreaux est posé sur la table basse en stratifié, à côté d'un gros cendrier en faïence, décoré des armoiries de la RDA pour son 25e anniversaire. Jans fume, debout à la fenêtre. Le store baissé filtre le soleil de l'après-midi. Une rumeur de voix monte de la place en contrebas. Jans écarte deux lamelles du store. Jans. Qu'est-ce que c'est que ce déballage ? T'as vu ? Des frigos énormes, des lave-linges, toute une quincaillerie ménagère au milieu de la place. Ah, des magnétoscopes aussi. Anke. Bah oui, ils étaient déjà là samedi dernier. Tu vois pas leur caisse sur le parking ? Elle boit une gorgée. Jans. Ah ouais ! Pas une Trabant, tu penses ? Opel, Audi, Mercedes. Les vessies débarquent chez les ploucs pour leur fourguer leur nouveau monde. Anke repose sa tasse et se renverse sur le plaid en chenille. Anke. Tu sais, les Wolf, au troisième, ils ont acheté un magnétoscope Sony avec un lot de cassettes VHS, des films américains des années 80, 10 films, dont 3 en cadeau. Jans écrase brutalement son mégot dans le cendrier. Jans. Qu'est-ce qu'on ferait d'un magnétoscope ? Moi, ma télé me suffit bien. Pas besoin de film à Merloc. Anke se lève, remonte le store. Rire, brouhaha de voix. Anke. Avec quoi on le paierait de toute façon ? On n'a que nos Ostmarques jusqu'au mois de juillet. Les vendeurs, là, en bas, ils prennent que les marques de l'Ouest. On pourrait bien essayer de vendre la Trabi, mais à qui ? Elle rit jaune. Elle prend la tasse et va la porter dans la cuisine. Jans. Tu rigoles ? On l'a attendu 12 ans, la Trabi, et c'est increvable, ces caisses. On peut encore rouler quelques années avec. Anke revient dans la pièce, s'assoit toute raide sur le plaid. Anke, la honte! Tu nous as vus hier, entre Erfurt et Iéna, comme on se traînait entre les grosses berlines d'en face, à 80 km/h, pieds au plancher, dans des pétarades de mobilettes et un nuage de fumée bleue. On ralentit tout le monde, on intoxique tout le monde. Sa voix s'étrangle, elle a les larmes aux yeux. Jans quitte la fenêtre, va vers la porte du vestibule. Jans, bon, tu t'énerves là. Viens prendre l'air, on va faire quelques courses. 2. Extérieur, rue de l'amitié entre les peuples. Jour. Le couple évolue sur le trottoir. Les passants traînent, il fait beau. Le vent fait voler les cheveux dénoués de Anke. À chaque rafale, des canettes vides roulent et s'entrechoquent sur le bitume. Jans shoote dans une boîte qui rebondit sur la chaussée. Jans, regarde ça. Elle est propre, la ville, depuis qu'ils sont chez nous. Anke, évidemment, les poubelles débordent. Elles ne sont plus du tout adaptées aux déchets. Jans semble ravaler une réflexion. Il pénètre dans une épicerie Consomme. 3. Intérieur, dans le magasin Consomme, au milieu des clients. Jour. Jans prend un panier en fer grillagé à l'entrée et se dirige vers un grand bac où s'entassent les petits pains qui sortent de l'usine locale de panification. Il en prend quelques-uns. Anke. Non, attends, j'en veux plus de ces brochettes. Regarde en rayon, il y a du pain tranché, emballé. Et pas qu'une sorte, plus cher, mais plus hygiénique. Jans soupire, il remet les petits pains dans le bac en bois. Jans. Ah, et je suppose que nos yaourts de la coopérative laitière ne te conviennent pas davantage. Madame va vouloir la production de l'Ouest. Yaourt à la fraise, à la framboise, à la vanille, dans de jolis petits pots en plastique. Anke compare différents emballages de pains de toutes sortes. Anke, au moins, il y a des couleurs sur leurs produits. T'en as pas marre de notre monde tout gris, de nos voitures de pauvres, des fruits en bocaux? Moi, j'ai envie de goûter aux bananes, à l'ananas, de rouler en BMW comme les autres. Jans. Ah oui, et avec quoi tu vas passer tes envies? L'usine a fermé, tu te rappelles ça? Optima, les belles petites machines à écrire fabriquées à Erfurt. Terminé! Anke balance dans le panier un grand paquet de pain de mie et des yaourts à la cerise. Anke. C'est bien pour ça qu'on doit partir d'ici, aller à Berlin pour trouver du boulot, un appart, vivre! Leurs chuchotements énervés se sont mués en disputes sonores. À la caisse, Jans pose le panier sur le tapis. Les clients qui font la queue les regardent, visage fermé. Anke, d'un air de défi, saisit rageusement sur un présentoir un paquet de chewing-gum Hollywood à la chlorophylle, le lance sur le tapis roulant. Allô ? Salut Gabi ! C'est Ben, là. Dis-moi, je t'appelle au sujet du scénar de Gundelmann pour le téléfilm sur WDR. Tu vois ? Mais si ! Erfurt, années 90 ! L'histoire d'un couple qui se sépare sur fond de réunification. C'est ça, voilà. Nostalgie et compagnie. Non, non, un couple cis, tradit, pas une scène de baise. Bon, écoute, je laisse tomber, je le sens pas trop. C'est trop ringard. Ah. Ok. Bon. Tu l'annonces à Gundelmann? Ouais. Merci, Gabi. À plus. Ciao, ciao. Ich sitz zu Hause, keine Lust zu garnen.
première fois que je l'ai vue, j'avais 16 ans. Elle n'en avait que 14, mais je suis tombé sous le charme. Comment expliquer ça? Je ne sais pas. C'était comme une évidence. Et ce fut d'autant plus surprenant que je ne m'y attendais absolument pas. Mes parents ont voulu que je les accompagne chez de vieux amis à eux qu'ils n'avaient plus revus depuis longtemps, et je freinais des quatre fers, entrevoyant un repas d'un ennui évident. Ses amis n'habitaient pas très loin, en fait, dans la même rue que nous, mais de l'autre côté. Quand je dis « de l'autre côté », je dois préciser qu'il fallait sortir du secteur américain pour se rendre dans le secteur soviétique. Au checkpoint, il fallait décliner nom, adresse, profession. Pendant que le Vopo feuilletait mes papiers, il regardait dans le miroir posé à mes pieds pour vérifier que je ne planquais rien sous mon manteau. Il a fini par nous délivrer un Ausweis de 24 heures. Pour aller du numéro 13 de la Friedrichstrasse au numéro 124 de la même rue, il nous a fallu faire la queue pendant une heure. Les amis de mes parents nous attendaient et nous nous sommes dirigés ensemble vers le quartier Nicolas, dominé par l'Hôtel Rouge. L'Hôtel Rouge, c'est la mairie de la ville, enfin de cette partie de la ville. Il s'appelle Rouge non pas parce qu'il est sous contrôle communiste, mais tout simplement parce qu'il est construit en briques. Un beau bâtiment d'ailleurs, dominant Alexanderplatz et sa splendide fontaine de Neptune. L'appartement des amis était trop petit pour qu'ils nous accueillent chez eux. Ils nous ont emmenés dans une auberge où nous avons commandé du chou et des saucisses. Je me suis retrouvé assis à côté de leur fille, Ingrid. Elle me fixait sans cesse et je n'arrivais pas à la regarder en face sans me sentir tout drôle. Moi, d'habitude si bavard, je perdais la cohérence de mes propos. Elle m'a sans doute trouvé maladroit, mais elle a su me mettre à l'aise et au bout d'un moment, elle m'a confié que, si nos parents étaient amis, nous pourrions le devenir aussi. Après le repas, nous sommes allés nous promener le long de l'Achepré. Elle m'a pris par la main et j'ai à nouveau perdu mes moyens. Elle parlait, je restais silencieux. Elle avait plein de questions. Elle voulait tout savoir, notre mode de vie à l'ouest. J'ai voulu lui dire des choses que je n'arrivais qu'à balbutier, puis nous avons dû prendre le chemin du retour, mais avant de nous quitter, Ingrid m'a embrassé sur la joue et a déclaré son envie de nous revoir. C'était bizarre. Je repensais à une chanson qui faisait pleurer ma grand-mère. Je crois qu'elle datait de juste après la construction du mur. Elle parlait d'un garçon qui voulait être heureux, mais se sentait abandonné et se demandait sans cesse pourquoi. Warum? Ich will glücklich sein, doch du lässt mich allein. Wann kommst du zurück? Sag, wann scheint uns das Glück? Und ich frage mich, warum? Warum? Les séparations avaient été cruelles lors de la déchirure de la ville. Ma grand-mère s'était réfugiée à l'ouest avec sa fille, mais son chéri n'avait pas pu les rejoindre. Je me languissais maintenant. Ma vie restait la même, mais un sentiment de frustration s'y était tenacement encastré. Sur la paume de ma main, j'avais écrit au stylo bille « Ingrid ». Ma mère s'en est aperçue et tout en se moquant gentiment, me souriait en silence. Nous sommes retournés plusieurs fois chez les amis de mes parents. J'appréhendais ces visites, mais chaque fois j'en revenais de plus en plus fébrile et déchiré par cette absurdité qui nous obligeait à de longues attentes avant de nous réunir à nouveau. Ingrid semblait éprise de moi. Elle m'a avoué m'avoir écrit. Ces lettres ne me sont jamais parvenues. Valait mieux oublier. Cela m'était insupportable. Un cafard poisseux engourdissait ma vie. 4 ans plus tard, au cours de l'une de nos visites, nous nous sommes éloignés du groupe que faisaient mes parents et les siens. J'avais grandi. J'étais majeur depuis 2 ans. Ingrid était une femme maintenant. Elle avait visiblement envie de me parler seule à seule. Je l'ai suivie, tout excitée de cette complicité, et dans l'ombre d'un porche, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit à brûle-pourpoint qu'elle était tout simplement une fille debout devant un garçon et qu'elle lui demandait de l'aimer. J'en ai pleuré de joie et je l'ai embrassée. Et puis je suis parti en courant cacher mes larmes. Le cafard grignotait mon âme. Une nuit de novembre, j'en ai fait un mauvais cauchemar. Une neige noire s'accumulait en congère, m'interdisant d'avancer. Et les bruits de bottes hachaient mes espérances, laminaient mes rêves. Des bruits répétés, sourds puis rapprochés, insistants, frappaient en cadence. Je me suis éveillé. On frappait à la porte de ma chambre. Ma mère est entrée. Elle avait l'air toute secouée. Elle, d'habitude si calme, était étrangement excitée. Elle a crié « Karl, habille-toi vite, tout de suite, je suis sûr qu'elle t'attend. Le mur est tombé. »
On ne mange pas juste une pomme de terre, on mange le champ où elle a poussé, les cailloux, la poussière, les sillons et la lumière, les saisons qui ont passé. On goûte aussi l'agriculteur, son bonheur, son malheur, son tracteur, sa ferme au toit fatigué, sa famille recomposée. Et, vous savez, on ne boit pas juste un verre d'eau, on boit aussi des nuages, des orages, des ruisseaux. On n'écrit pas juste quelques mots. Un texte de Julien Bert.
En ce début d'année 1990, Françoise Schmitt était très fière de sa famille. Son mari, Willy, chercheur dans le groupe pétrochimique IG Farben, avait ce que l'on appelle communément une bonne situation. Quelques années auparavant, Françoise avait été sa secrétaire. Le père de Françoise, militaire toulousain en garnison à Berlin, hésita un peu, mais donna son feu vert à cette union franco-allemande. Willy et Françoise s'étaient donc épousés et avaient conçu une adorable fille appelée Clara, née en 1973. Les souvenirs de la guerre mondiale s'estompaient peu à peu. On peut dire que, dans les années 90, cette histoire conflictuelle était classée. L'heure était à la réconciliation. La famille de Françoise en était la preuve éclatante. Elle était installée dans une belle maison sur les bords du Maine, le fleuve qui traverse Francfort. Un matin comme les autres, Françoise voulut réveiller sa fille, mais la chambre de cette dernière était vide. Le lit n'avait même pas été défait. C'était une évidence. Clara avait fugué. Elle avait laissé un petit mot posé sur la table de nuit avec une adresse et un nom presque indéchiffrable, griffonné à la hâte. « Je suis partie à Berlin-Est, passer la nuit chez les parents de mon ami. » Le fameux mur qui séparait les deux Allemagnes était tombé le 9 novembre 1989. En janvier 1990, cet événement était donc très récent. Il n'était pas tombé de lui-même, mais avait été partiellement détruit par la foule incontrôlable, regardée avec méfiance par certains habitants de l'ouest du pays. En effet, il devait bien y avoir quelques communistes cachés au milieu de ces anonymes en liesse.
Leur fille s'était donc enfuie chez les Rouges. Rien qu'à cette idée, Willy en eut la chair de poule. En effet, le père de Willy avait combattu à Stalingrad et n'aimait pas du tout les Russes et tout ce qui s'apparentait à l'Union soviétique. Il avait transmis cette haine à son fils. Et voilà que Clara allait rejoindre le camp ennemi. La police déchiffra les informations et les communiqua du bout des lèvres aux parents, très inquiets. Visiblement, elle refusait de mettre les pieds dans un territoire qui fut longtemps considéré comme une prison à ciel ouvert. En arrivant à Berlin-Est, non sans mal, car les stigmates du mur détruit étaient encore là, les parents furent totalement déconcertés. Rien à voir avec les luxueuses vitrines de l'Ouest. Les bâtiments, uniformes et gris, s'alignaient désespérément, comme des fantômes, le long des grands boulevards enneigés où l'on pouvait apercevoir quelques trabans d'un autre âge. Ils arrivèrent enfin à l'adresse figurant sur le papier donné par la police. Après avoir monté 5 étages d'un immeuble mal entretenu, ils frappèrent à la porte qui grinça en s'entrebâillant. Un homme blond, d'environ 45 ans, se tenait dans la pénombre. « Vous êtes les parents de Clara ?»« Entrez, » dit-il, avec un accent russe très prononcé. Son épouse proposa du thé. Elle souriait à peine et avait l'air gênée. Elle portait un tablier défraîchi et de vieux chaussons. Mais elle était encore très belle. « Vous venez chercher votre fille ?» demanda la femme. Ses doigts tremblaient légèrement en versant la boisson brûlante dans les tasses usagées. Elle soupira. « Votre fille a suivi notre fils, Yuri. Ils se sont rencontrés le soir de la chute du mur et ce fut un coup de foudre réciproque. Mon mari est russe. J'ai fait sa connaissance ici même, en 1970, lors d'un festival de la jeunesse communiste. J'avais 18 ans et lui 25. L'amour a fait le reste. Il est resté ici et nous nous sommes mariés. Nos parents respectifs ont eu du mal à digérer notre union, mais ont fini par l'accepter. Yuri est un membre fervent du parti. Quand il a vu la chute du mur, il m'a dit « Maman, je pars vivre à Moscou, chez grand-père Ivan, le héros de Stalingrad. Je ne veux plus jamais entendre parler de ce pays qui n'existe plus, ma chère République démocratique allemande. » Il a donc embarqué votre fille Clara après nous l'avoir présentée. Elle est charmante, bien éduquée. Je pense qu'ils feront de beaux enfants. Willy en eut le souffle coupé. Françoise resta interloquée, la tasse à la main. Ainsi, l'amour se moque pas mal des frontières, des guerres, et balaie tout sur son passage.
Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang.
Il est arrivé le grand jour dont on ne connaît pas la date, le jour que nous redoutons pour la plupart, le jour où les plus humbles, les plus miséreux peuvent enfin côtoyer les plus illustres, les plus nantis en une même fragilité humaine. Le jour où nous partons vers une destination qui, depuis l'éternité, fait polémique. Les uns, certains du paradis, d'autres de l'enfer du purgatoire et aussi du néant. Vous l'avez compris, le jour de notre mort. L'église n'est pas belle, elle ne donne pas envie de se recueillir, d'écouter le silence et le son du sacré, croyant ou pas. Seul, son très haut plafond nous inspire une forme de spiritualité. Construite à la va-vite, sans trop de sous, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle n'a d'autre charme que d'être celle de mon quartier, où les souvenirs affluent. Excepté baptême, communion, mariage, ma famille et moi la fréquentons peu. Aujourd'hui, il s'agit d'un enterrement. À chaque cérémonie de ce genre, je l'avoue, Je m'impatiente vite, et pour passer le temps, mon regard se pose sur nombre de participants. Je détaille les visages et leurs expressions, les tenues de circonstances, les effets du vieillissement sur tel ou tel, pas vu depuis quelques années. Le curé arrive. Un petit bonhomme replet, l'air débonnaire, la cinquantaine. Il avance d'un pas volontairement empreint de la solennité du moment. D'un geste, il fait que tout le monde se lève. Ainsi, je peux distinguer plus facilement ma femme et mes enfants, ma famille proche. Un de mes cousins, pas rencontré depuis de nombreuses années, est présent. Nous avons l'habitude de nous voir qu'aux enterrements, et donc le moins souvent possible. Sans oublier dans la distribution, les potes. Tiens, Pierre est venu. Il a traversé la France d'est en ouest pour l'occasion. C'est sympa. Jacques et Phil se sont mis sur leur 31, leur côté tradit sûrement. Les deux gaillards et moi formions un trio survitaminé dans les folles années 70. Depuis, nos relations ne se sont jamais distendues. Et le polo, où est-il ? Je parcours des yeux l'assemblée. Pas de polo. Ah ok, polo est en retard comme d'hab. À ce niveau de non-ponctualité, ça devient un grand art. Je le vois arriver haletant et sans trop de discrétion. Il m'agace par moments. Tout ce beau monde rassemblé à l'appel du curé se tient en un quasi-garde-à-vous. J'essaye d'en faire autant. Mais une raideur inhabituelle m'en empêche. Silence. Recueillement. Quelques toussotements déchirent la pesante atmosphère. Le prêtre invite à se rasseoir quand la sono entame un de mes morceaux préférés. Carpet Crawlers de Genesis. Je n'arrive pas à saisir pourquoi certaines chansons dont on ne connaît pas les paroles peuvent nous émouvoir au point d'en pleurer. Celle-là fait mouche à chaque fois, et en cet instant, j'en ai les larmes aux yeux. Ma fille aînée, le visage fermé, pas vraiment son habitude, se rapproche de l'autel, suivie de ma cadette, regard embué. Elles sont sœurs et aussi très amies. J'en suis fier. L'ecclésiastique leur tend le micro et elles se lancent à leur tour dans un panégyrique à mon égard où il est question de grande bonté, de générosité, etc. J'en souris. Puis un cortège se forme. En tête, ma femme, une rose à la main, se dirige vers moi, les filles derrière. La procession semble respecter un ordre de proximité avec le défunt. Avec qui ? Avec le défunt. Ça va pas, non ? Je vois tout, j'entends tout. Bon, c'est vrai, je n'arrive pas à bouger dans ce caisson. Et alors ? Et alors, après un dernier soubresaut, j'aperçois ma table de chevet, mon livre en cours de lecture. Je suis dans mon lit. Un cauchemar. J'ai fait un cauchemar. Les secondes qui suivent sont merveilleuses. Quel soulagement.
Vous avez entendu des nouvelles de Bernard Seller et de Philippe Couat, lues par leurs auteurs, ainsi que des nouvelles de Marie-Martine Briand et de Françoise Créau, lu par Anaïck Frappard.
Cette émission, Le chemin des mots, a été réalisée par Philippe Couat, Michel Frappard, Yves Hamon, Bernard Zieler. Ils vous embrassent. Les textes rédigés ces derniers mois l'ont été dans les ateliers animés par Sylvie Boget. L'émission est diffusée le premier et le troisième mercredi de chaque mois à 17h30 sur Jet FM 91.2. Merci de votre écoute. Et bise à partager sur le chemin avec vous.